8h à Paris et à Rome, 9h à Kiev. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Tout de suite, c'est le journal de Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ferveur et émotion à la Basilique Saint-Pierre.
Près de 20 000 fidèles ont déjà défilé devant la dépouille du pape François, exposée au Vatican. Nous retrouverons notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Volodymyr Zelensky est en Afrique du Sud. Ce jeudi, le président ukrainien doit rencontrer son homologue sud-africain, un temps critiqué pour sa proximité avec Moscou. Cyril Ramaphosa a depuis équilibré sa position. La question mémorielle au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron à Madagascar. Le président français va visiter le palais Rova sur la Grande Île aujourd'hui, un musée qui abrite un dais restitué par la France après son vol durant la période coloniale. Et puis le secteur culturel français tire la sonnette d'alarme, les professionnels dénoncent l'impact de l'austérité budgétaire sur leur activité. Pour y voir plus clair dans ce marasme économique, un nouvel outil a été lancé, la carte aux crises. Explication en fin de journal.
Ils sont donc des milliers à défiler dans la basilique Saint-Pierre du Vatican.
Des fidèles venus rendre un hommage de quelques secondes à la dépouille du pape François exposée depuis hier et jusqu'à demain soir. On va tout de suite prendre la direction de la place Saint-Pierre où on retrouve notre envoyé spécial Daniel Vallaud. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors il y a déjà beaucoup de monde dans la file d'attente pour accéder au cercueil du souverain pontife.
Oui, je me trouve juste devant l'entrée latérale de la place Saint-Pierre et c'est un flot ininterrompu de fidèles qui pénètrent sur cette place depuis environ trois quarts d'heure. La file d'attente s'étend sur plusieurs centaines de mètres le long d'une rue étroite qui file vers le Tibre. De nombreux fidèles étaient venus hier et n'avaient pu entrer dans la basilique en raison de l'affluence, alors que le Vatican avait repoussé de 2 heures la fermeture et autorisé les visiteurs à venir jusqu'à minuit. Dans la file d'attente, de nombreux pèlerins venus pour les fêtes Pascal, foulard autour du cou, des nonnes vêtues de blanc, des prêtres en soutane, mais aussi des groupes de touristes qui se trouvaient à Rome en cette semaine si particulière et qui ont décidé eux aussi de venir rendre hommage au souverain pontife. J'ai dû me lever à 4 heures du matin pour être sûr d'entrer, m'a dit tout à l'heure un touriste mexicain déterminé à saluer une dernière fois le pape François. Le corps du souverain pontife qui est exposé au cœur de la basilique, une exposition modeste dans le cadre somptueux du Vatican, un simple cercueil de bois incliné sur le sol. Le Vatican a fait savoir que le cercueil serait refermé demain à 20h à la veille des funérailles qui seront organisées ce samedi matin.
Daniel Vallaud en direct de la place Saint-Pierre avec les moyens techniques de Jade El-Khoury. Merci. Les funérailles du pape, vous l'avez dit, sont prévues samedi à 10h heure de Rome, 8h temps universel. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement et hauts responsables ont annoncé leur présence, dont le président américain Donald Trump, le premier ministre britannique Keir Starmer ou le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fera également le déplacement. Et avant sa venue au Vatican, le président ukrainien effectue ce jeudi une visite à Pretoria en Afrique du Sud, une rencontre attendue depuis plusieurs mois qui devait avoir lieu un peu plus tôt en avril mais qui avait été reportée. Le président ukrainien voit en l'Afrique du Sud un pays de médiation non aligné, membre des BRICS et avec une ligne directe avec le Kremlin. Enjeu et programme de ce déplacement avec Valentin Hugues.
Dans la même semaine, l'Afrique du Sud parle à la Russie et à l'Ukraine. Lundi, appel téléphonique entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine. Ce jeudi, le président ukrainien est attendu à Pretoria. Et si l'Afrique du Sud n'a pas condamné l'invasion russe en février 2022 et fait partie des BRICS avec la Russie, elle tente de se placer en médiateur, rare pays à pouvoir parler avec Kiev et avec Moscou. Aujourd'hui, l'objectif principal côté Afrique du Sud, c'est donc de continuer les efforts pour tenter de résoudre pacifiquement le conflit, explique la présidence. Pour l'Ukraine, c'est aussi une volonté de renforcer ses liens avec le pays et demander une plus grande implication, notamment pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de la guerre, sujet souvent au cœur des discussions entre les deux pays. Plus globalement, l'Ukraine tente aussi de se rapprocher davantage du continent. En 2023, Cyril Ramaphosa s'était rendu à Kiev avec plusieurs dirigeants africains. La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Cyril Ramaphosa est prévue en fin de matinée au palais présidentiel de Pretoria. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et dans ce contexte, l'Ukraine a de nouveau été intensément bombardée la nuit dernière. Frappes russes qui ont fait 9 morts et 63 blessés à Kiev, selon un bilan encore provisoire. La ville de Kharkiv également touchée, selon son maire. Hier, le président américain avait une nouvelle fois accusé Volodymyr Zelensky d'être un obstacle à la paix alors qu'il estime avoir trouvé un accord avec Ukrainiens et Russes. Donald Trump dénonce le refus de son homologue ukrainien de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, péninsule annexée illégalement en 2014 par Moscou.
Parmi les autres dossiers sur le haut de la pile pour l'administration américaine, l'immigration.
Et parmi les communautés qui vivent dans l'inquiétude aux États-Unis, les Haïtiens, des exilés qui avaient fui leur pays gangréné par la violence des gangs et qui bénéficiaient d'un statut temporaire dans le pays, mais ils sont de plus en plus nombreux à prendre la route direction le Canada, conséquence des menaces de l'administration Trump. Elle entend révoquer cette protection et même si cette décision a été suspendue par la justice, la crainte d'un retour forcé suffit à les pousser à reprendre la route de l'exil, Nafia Liber.
En 20 jours, plus de 2000 demandeurs d'asile ont franchi la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ils sont quasiment 4 fois plus nombreux qu'en janvier à converger vers ce point de passage au Québec. La plupart sont haïtiens.
Nous venons chercher refuge.
Ils fuient les États-Unis, hantés par la peur d'un retour forcé en Haïti.
C'est nous tous qui avons reçu cette lettre. On nous a dit que nous devions laisser le pays avant le 13 ou bien le 24 de ce mois, avril. Ça a tellement fait peur.
Et à Montréal, leur arrivée met sous pression la maison d'Haïti qui les accompagne.
Ces dernières semaines, nous on reçoit à peu près 15 à 20 personnes par jour.
C'est pas négligeable.
Marjorie Villefranche est la directrice de l'organisme.
On n'a pas de financement pour les aider, pour les soutenir, ni pour quoi que ce soit.
Et certains Haïtiens déjà établis, comme Peggy Flore, sont dépassés.
J'ai des cousins qui ont sollicité mon soutien pour les aider, mais je ne peux pas.
En cause, l'entente sur les tiers pays sûrs entre Ottawa et Washington. Seuls ceux qui ont de la famille, mais de la famille proche, comme des frères ou des sœurs au Canada, peuvent rester. Pour les autres, c'est un retour forcé. Plus de 1200 demandeurs d'asile ont ainsi été renvoyés aux États-Unis depuis le début de l'année. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Les États-Unis qui poursuivent leurs négociations sur les droits de douane, elles ont débuté avec le Vietnam, annonce Hanoï, sous la menace de taxes à hauteur de 46%. Hier, Donald Trump avait assuré que les droits de douane de 145% imposés à la Chine allaient baisser substantiellement dans les jours à venir. Pékin, qui avait auparavant dénoncé les pratiques américaines de chantage et d'intimidation devant l'ONU, droits de douane, qui perturbent gravement l'ordre économique mondial, selon l'ambassadeur chinois auprès des Nations Unies. L'Inde prend des mesures de rétorsion à l'encontre du Pakistan. New Delhi accuse son voisin de terrorisme transfrontalier après l'attaque qui a fait 26 morts mardi dans la région contestée du Cachemire. Le gouvernement indien ordonne donc la fermeture du principal poste frontière avec son rival et bloque un accord sur le partage de l'eau jusqu'à un nouvel ordre. En réaction, Islamabad convoque son Conseil de sécurité nationale, un organisme qui ne se réunit que dans les crises les plus graves.
La question mémorielle au cœur du deuxième jour de visite d'Emmanuel Macron à Madagascar.
Après l'annonce de plusieurs accords économiques et la création d'une commission mixte sur les îles éparses, le président français va visiter le palais de la Reine, le palais Rova, où se trouve un deï rendu par la France, un moment culturel et mémoriel important dans la relation franco-malgache et qui illustre la volonté de Paris de mener une politique de restitution des biens culturels. Valérie Gasse.
Préparer l'avenir en pansant les plaies du passé, c'est depuis longtemps l'ambition de la politique mémorielle d'Emmanuel Macron. Sa visite à Madagascar lui donne l'occasion de refaire passer ce message. La restitution de 3 crânes saccalaves, dont celui d'un roi décapité par les troupes françaises en 1897 et emmené comme trophée, est désormais actée. Emmanuel Macron l'a confirmé, elle aura lieu au mois d'août.
Madagascar devient ainsi le premier pays où sera mise en œuvre notre loi sur la restitution des restes humains de décembre 2023.
Cette politique de restitution des biens culturels vise à permettre de tourner une page dans la relation bilatérale avec les pays africains.
Quand des objets, des œuvres d'art ont été volées à un peuple. Elles doivent être restituées.
Emmanuel Macron voit dans cette démarche la promesse de nouveaux échanges culturels.
Un des moments les plus beaux que j'ai eu à vivre, c'est quand, au palais présidentiel à Cotonou, on a fait revenir une partie des trésors du royaume de Dahomey qui avait été dérobé par Dodd. Et ils ont repris leur place dans le palais. Et des artistes béninois contemporains avaient, en parallèle, mené un dialogue et fait des œuvres. Et il y a quelques mois, on les a accueillis à Paris, à la conciergerie.
La culture aussi est un enjeu de la coopération avec Madagascar. Valérie Gasse, Tananarive, RFI.
Et la visite d'Emmanuel Macron sur la Grande Île, on y revient ce matin avec notre invité Afrique, Richard Randry Amandrat, ancien ministre des Affaires étrangères malgache. Rendez-vous dans une demi-heure.
Et à noter qu'Emmanuel Macron, qui devait se rendre dans l'île Maurice pour y poursuivre cette tournée dans l'océan Indien, a finalement annulé ce déplacement en raison de sa présence aux funérailles du pape François.
La France, confrontée depuis 10 jours à des attaques contre ses prisons.
Des centres pénitentiaires attaqués à l'arme lourde, des véhicules du personnel incendié ou des lotissements de ces mêmes agents attaqués au cocktail Molotov. 65 faits d'agression ou de dégradation ont été commis, ont annoncé le ministre de l'Intérieur. Une réaction à la lutte du gouvernement contre le narcotrafic, selon le Premier ministre François Bayrou. Il était en déplacement hier auprès d'agents pris pour cible en compagnie de Bruno Retailleau et du ministre de la Justice Gérald Darmanin. France toujours, et ArcelorMittal annonce un vaste plan de suppression de postes, 600 emplois menacés sur 7 sites industriels du Grand Nord de la France. Le numéro 2 mondial de la sidérurgie justifie sa décision par la crise de l'acier en Europe, et Nicolas Fellmann, c'est un choc pour les salariés.
En particulier sur le site le plus touché, Dunkerque, dans le nord de la France, 177 emplois menacés. Gaëtan Lecoq, secrétaire général CGT de l'acierie.
Là, on est en train de nous casser le bras et puis on va nous casser les deux pattes. Si on veut tuer nos usines, on peut pas s'y prendre mieux. Voilà. Donc on supprime des emplois dans la maintenance, dans des fonctions qui sont là pour la sûreté industrielle de nos sites. Ce qu'on redoutait est en train de se produire.
La direction d'ArcelorMittal explique ses suppressions de postes par la crise de l'acier en Europe. La demande sur le continent a baissé de 20% en 5 ans et les importations d'acier sont en hausse. Ce plan de restructuration a donc pour but, dit le groupe, d'assurer sa compétitivité future. Inacceptable, répond l'élu CGT.
Tout ça, c'est de la mascarade. On n'est pas une société déficitaire si on produit en France. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent quitter la France, l'Europe, pour faire leur acier en Inde et au Brésil, où les normes environnementales et sociales sont beaucoup moins importantes que les normes françaises et européennes.
ArcelorMittal, numéro 2 mondial de l'acier, doit annoncer ses résultats pour le premier trimestre la semaine prochaine. En attendant, les syndicats promettent de rester mobilisés.
Nicolas Fellmann.
Et il n'y a pas que le secteur de l'industrie qui connaît une crise dans l'Hexagone.
Celui de la culture est également impacté par l'austérité budgétaire. Fin mars, l'Observatoire des politiques culturelles a mis en ligne un nouvel outil collaboratif, la Cartocrise, pour se rendre compte de l'ampleur de cette crise. Plus de 425 déclarants y ont participé et la réalité met les centres culturels au pied du mur, Nour Marzougui.
Les déprogrammations s'enchaînent, les structures se fragilisent et depuis 2 ans, le monde de la culture voit ses budgets fondre comme neige au soleil. Pour rendre visible l'ampleur de cette crise, l'Observatoire des politiques culturelles a lancé un outil collaboratif, la Cartocrise, une carte interactive sur laquelle les institutions culturelles se géolocalisent et indiquent la baisse de budget qu'elles ont subie cette année. Alice Anjan, qui travaille pour l'Observatoire, déplore cette baisse généralisée.
On se rend compte que l'ensemble du territoire national, et on voit bien sur la carte, est touché, avec certaines régions où il y a davantage de points, par exemple en région Pays de la Loire, avec des annonces de baisse de budget de moins 62%, donc avec effectivement des impacts très très directs.
En France, les collectivités territoriales financent la culture, mais elles n'y sont pas obligées. Résultat, quand les budgets se resserrent, la culture est la première touchée. Alors si le secteur public est défaillant, le secteur privé peut-il représenter sa bouée de sauvetage ?
Il n'y aura pas forcément de relais privé, donc ça s'annonce quand même plutôt catastrophique. Je ne saurais dire comment sauver le secteur culturel, mais il est sûr que la situation est très alarmante.
Et pour ne rien arranger, le secteur de la culture est sous le feu des critiques de l'extrême droite et d'une partie de la droite.
Nour Marzougui.
Merci Pierre Boudias, c'était le journal sur RFI. On passe au sport tout de suite. Avec du foot à la une, Antoine Grenier, comme c'est original, les Liverpool, pratiquement sacrés champions d'Angleterre.
Il ne manque désormais qu'un petit point aux Reds pour retrouver leur couronne abandonnée à Manchester City depuis 4 saisons. Liverpool bien aidé par Arsenal qui n'a pu faire mieux qu'un nul de partout face à Crystal Palace. C'est la 9e fois cette saison que les Gunners partagent les points après avoir mené au score. La faute cette fois à Jean-Philippe Mateta, auteur d'un lob subtil juste après son entrée en jeu à 10 minutes de la fin. L'attaquant français qui avait tout prévu.
En débutant sur le banc, j'ai pu observer toute la première mi-temps et j'ai vu que David Raya jouait très avancé. Alors quand je suis entré sur le terrain, je savais que si j'arrivais à récupérer le ballon près de la surface, il ne serait pas placé dans son but. Alors j'ai tenté et j'ai marqué. J'ai juste eu un peu peur que le ballon ne tape sur la barre transversale. Alors j'ai attendu et finalement, c'était dedans. J'étais heureux.
Jean-Philippe Mateta chez nos confrères de Sky Sport. Arsenal qui va maintenant se tourner vers la Ligue des Champions et sa demi-finale aller contre Paris.
En Espagne, le Real s'accroche.
Les Madrilènes vainqueurs sur la pelouse de Getafe, 1-0. Arda Güler, le Turc, sort les merengues d'un match compliqué et leur permet de rester à 4 longueurs du FC Barcelone. Ce jeudi, suite et fin de cette 33e journée de Liga avec notamment l'Atlético de Madrid, 3e du classement, qui accueille le Rayo Vallecano.
Et en Italie, l'Inter dit adieu à son rêve de triplé.
Les Nerazzurri battus 3-0 en demi-finale demi-finale retour de Coupe d'Italie et éliminé par leur grand rival de l'AC Milan. Pas la manière idéale de préparer une autre demi, celle de la Ligue des Champions contre Barcelone la semaine prochaine. L'AC Milan, lui, affrontera en finale de Coupe d'Italie le vainqueur de la confrontation entre Bologne et Empoli.
Basket à présent, deuxième manche des playoffs NBA, Cleveland confirme.
Les Cavaliers décrochent une deuxième victoire sur le Heat de Miami, succès 121 à 112 grâce aux 33 points de Tyler Herro. Cleveland mène 2-0 dans sa série, tout comme Boston qui s'est imposé 109 à 100 sur le Magic d'Orlando. Houston, de son côté, revient à égalité un partout face à Golden State avec un succès cette nuit, 109 à 94.
En Euroleague, réaction attendue pour le Paris Basketball en quart de finale.
Les Parisiens battus 83-78 par les Turcs de Fenerbahçe lors de la première rencontre. Rien n'est perdu dans cette série disputée au meilleur des 5 matchs. Mais il va falloir une victoire à l'extérieur pour faire basculer l'avantage en faveur des Parisiens. Thiago Splitter, l'entraîneur brésilien du Paris Basketball, a les idées claires sur les ajustements à effectuer par ses joueurs.
Je ne vais pas vous dire ce que je prévois, mais une chose est certaine, il faudra être meilleur au rebond. Nous n'avons pas d'excuses, pas même celle de la taille. Sur certains matchs, nous avons été bons au rebond, même en étant l'équipe la plus petite sur le terrain. Donc il faut répéter ça. Et lors du premier match, nous n'étions pas au rendez-vous au rebond.
Le deuxième match du quart de finale d'Euroleague entre le Fenerbahçe et le Paris Basketball, c'est à 17h45, temps universel. L'autre quart opposera les Grecs du Panathinaikos aux Turcs de l'Anadolu Efes. Hier, Monaco a dominé Barcelone 97-80 pendant que le Real s'inclinait 84-72 sur le parquet de l'Olympiakos.
Antoine Grenier pour le sport sur RFI. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Ce matin avec vous, on revient à nouveau sur les conséquences de la stratégie commerciale menée par l'administration Trump. Parmi les pays touchés, le Japon, comme d'autres, en sursis pour le moment. 24% de droits de douane pourraient lui être imposés. Alors si on en parle ce matin, Stéphane, c'est parce que le Japon se trouve dans une situation particulière, prise en étau entre les États-Unis et l'autre grand adversaire américain dans cette guerre commerciale, c'est la Chine.
Oui, et si la quatrième économie mondiale se retrouve dans une situation pour le moins délicate, c'est parce qu'elle entretient des liens économiques très étroits, pour ne pas dire essentiels, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. Pour ne citer que cette donnée, les investissements directs étrangers du Japon sur le sol américain sont de 600 milliards de dollars et les chaînes d'approvisionnement japonaises dépendent de la Chine. En fait, c'est simple, Andréane, ce sont tout simplement les deux premiers partenaires commerciaux du Japon.
Et alors pourquoi est-ce que c'est un problème pour Tokyo?
Déjà, parce que les autorités chinoises se sont agacées cette semaine des pays qui négocient avec les États-Unis, et c'est le cas du Japon, et parce qu'à l'inverse, l'administration américaine ne semble pas vouloir entendre parler de la Chine et discute unilatéralement avec les pays qu'elle entend viser par ces mesures. Mais concernant le Japon, ce qu'il faut comprendre, c'est que son économie est ultra dépendante des deux pays. Pour être clair, les entreprises japonaises ont besoin de la Chine et de ses biens pour fabriquer des produits qu'elles vendront ensuite aux États-Unis. Un exemple tout simple, le secteur automobile, les voitures, il illustre parfaitement la dualité de ce modèle japonais.
Et donc, quelle est la marge de manœuvre pour les autorités japonaises?
Elle est très étroite. Le Premier ministre japonais ne cache pas la vulnérabilité de l'archipel. Il a expliqué ces derniers jours, je cite, que si le Japon concédait tout, il serait impossible d'en garantir l'intérêt national. Les Américains demandent surtout aux Japonais d'importer bien plus, avec un objectif évidemment, rééquilibrer la balance commerciale, importer notamment plus de voitures et de produits agricoles.
Comme le riz par exemple, on en a souvent parlé sur RFI, le Japon traverse en ce moment une crise du riz.
Tout à fait, ces derniers mois le prix de ce bien de consommation a été multiplié par deux, la production japonaise ne suffit pas à la demande intérieure, sauf que les États-Unis, ils produisent du riz. L'idée est donc de répondre à cette demande par des importations de riz américain. L'enjeu pour le gouvernement japonais, c'est de trouver une solution de court terme, car sur le temps long, cela pourrait affecter les producteurs japonais eux-mêmes, notamment quand la récolte sera de nouveau au rendez-vous.
Et puis on l'imagine, le Japon a noué d'autres alliances commerciales.
Oui, le pays a diversifié ses dépendances commerciales, notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est ou la Corée du Sud, en y investissant beaucoup. Le Premier ministre japonais ira d'ailleurs au Vietnam et aux Philippines la semaine prochaine, avec toujours l'ombre de la Chine qui, il faut le dire, est au cœur de l'économie asiatique très intégrée dans la chaîne régionale de production. Le Japon marche donc sur un fil, avec pour équilibre à trouver le maintien de sa croissance et la protection de ses industries clés.
Et pour aller plus loin, vous nous suggérez, Stéphane, de consulter le décryptage d'Antoine Roth, professeur assistant à l'université de Tohoku à Sendai au Japon. C'est à retrouver sur notre site rfi.fr. Merci à vous, Stéphane Geneste. C'est dans ce contexte, en tout cas d'extrême tension commerciale dans le monde, que se tiennent en ce moment les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. On en parle tout de suite avec notre invité. En ligne de Washington avec Gaëtan Plenet, Anne-Laure Kichel, présidente fondatrice de la Global Sovereign Advisory, société de conseil aux États.
Bonjour Anne-Laure Kichel.
Bonjour.
Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont débuté lundi à Washington. Vous y participez. Ça se passe dans un contexte évidemment particulier avec ces droits de douane américains qu'on va avoir l'occasion d'aborder. Est-ce que ce contexte et l'inquiétude, l'incertitude qu'il suscite, c'est palpable dans les couloirs ou bien on reste calme, on travaille comme d'habitude? En fait, est-ce que ça a des airs de réunion de crise?
Alors, ça n'a pas des airs de réunion de crise, mais c'est vrai que c'est une atmosphère un peu particulière. Alors aujourd'hui, il y a eu, et c'était évidemment très très suivi, puisque le secrétaire d'État au Trésor américain s'est exprimé. Il a commenté plusieurs sujets, il a commenté les progrès qui étaient faits sur les fameux deals qui sont en cours d'être discutés. Et ensuite, il s'est exprimé, c'était la semaine pour le faire, sur justement le FMI et la Banque mondiale. Et tout le monde attendait ça, puisque comme l'administration américaine a pu être assez radicale par rapport à certaines administrations ou certaines initiatives, il dit nous allons coopérer avec ces deux organisations, FMI, Banque mondiale, mais nous les rappelons à leurs devoirs. Et en particulier, il a été extrêmement sévère avec le FMI, disant que le FMI devait être dans son rôle, qui était de s'occuper de la balance des paiements des États. Ce que ça veut dire entre les lignes, c'est le FMI, à ces derniers temps, s'est beaucoup préoccupé du climat, par exemple, et des sujets de vulnérabilité, et c'est probablement pas son rôle premier.
Mais est-ce qu'il faut y voir une menace? Parce que l'administration de Donald Trump a dit examiner son engagement auprès de toutes les institutions multilatérales. Or, les États-Unis sont le premier contributeur du FMI et de la Banque mondiale. C'est inquiétant?
Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je pense que il est raisonnable de penser que les États-Unis ne remettront probablement pas, entre guillemets, au pot quand il y a, vous savez, des équivalents d'augmentation de capital qui sont faites, et la prochaine qui devrait être faite est celle de la Banque mondiale. Il est probable que les États-Unis n'y participent pas. Donc, est-ce que c'est inquiétant? Je crois qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes qui se sont passées ces derniers temps. Donc, c'était quelque part rassurant d'entendre, dans ce contexte-là, que les États-Unis souhaitaient dialoguer et souhaitaient avoir comme interlocuteur le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Mais, encore une fois, les critiques qui ont été exprimées, d'ailleurs vis-à-vis des deux, mais particulièrement sévères par rapport au FMI, sont quelque chose qui a vraiment été noté par tout le monde.
Alors, premier renseignement dans les prévisions du FMI publiées mardi, une croissance mondiale revue à la baisse, 2,8% en 2025, c'est 0,5 points de pourcentage en moins que ce qui était initialement prévu, même si, je le précise quand même, ces prévisions ne prennent en compte que les mesures douanières annoncées jusqu'au 4 avril, ça veut dire que ça ne prend pas en compte toutes les mesures annoncées, les mesures de surenchère entre Washington et Pékin. La baisse de prévision la plus importante, c'est pour les États-Unis, 1,8% contre 2,7% de prévision avant. Anne-Laure Kichel, Donald Trump aura beau dire ce qu'il veut, oui, la guerre commerciale qu'il a engagée va quand même faire du mal à son pays et à ses habitants.
Oui, il est fort probable que les États-Unis aient en effet à payer les conséquences de ces actions, de ces décisions. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que il faut toujours être extrêmement prudent parce que rien n'est figé, tout bouge extrêmement vite. Mais d'ores et déjà, on peut penser que l'inflation ne sera pas sera en hausse et ne restera pas basse. Dans tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on a peut-être perdu de vue qu'il y avait un chiffre d'inflation qui était tombé, qui ne prenait évidemment pas en compte les sujets de tarifs, puisque c'était l'inflation un peu historique, et qui en fait était de très très bons chiffres, et donc qui montrait que la politique de la Fed avait été particulièrement bonne et pertinente. Donc, que l'inflation soit en hausse, très certainement. Que la croissance subisse une dépression à la baisse, absolument.
Alors ça, c'est pour les États-Unis. Pour ce qui est de la Chine, la croissance attendue est passée de 4,5% à 4%. Est-ce qu'on peut dire que Pékin s'en sort un peu mieux ?
C'est très différent parce que en fait, Pékin était dans une dynamique qui était tout à fait différente. Ce que les Chinois sont en train de travailler à faire, c'est de transformer une économie exportatrice en une économie plus intérieure, avec beaucoup de, on va dire, la consommation qui est le driver essentiel
D'ailleurs, Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor dont on parlait, il l'a dit, hein, la Chine devrait orienter son économie pour soutenir davantage ses propres consommateurs et la demande intérieure. Il n'a pas totalement tort.
C'était quelque chose qui était en marche. La Chine va bien sûr accélérer, mais c'était déjà l'intention avant l'annonce des tarifs et va mettre en place toute une série de mesures pour maintenir une croissance autour de 5%, puisque c'est leur objectif, avec des plans évidemment et des ils vont injecter des liquidités. Ils surveillent aussi de très près ce que fait la Banque centrale et ce que va faire la Banque centrale sur les taux. Donc en fait, ils vont donner des marges de manœuvre à l'économie pour être capable de lancer des stimulus fiscaux quand ça sera nécessaire. Donc vous avez côté chinois un pays extrêmement organisé qui était dans une marche justement donc de transformation de l'économie, comme on l'a commenté, très près, qui avait beaucoup anticipé les sujets de tarifs, bien sûr, ce qui est pas une qui ne venait d'ailleurs pas comme une surprise, et qui a des marges de manœuvre pour pouvoir agir et a un plan et qu'il applique assez méthodiquement depuis les annonces officielles. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est évident que cette situation de tarif n'est souhaitable ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour d'ailleurs réellement personne dans le monde.
Alors justement, il y a les États-Unis, il y a la Chine et puis il y a les autres. Un tiers des pays du monde, totalisant à eux seuls 80% du PIB mondial, vont subir une dégradation de leur endettement, c'est ce que nous dit le FMI. La dette publique risque d'atteindre 100% du PIB mondial d'ici à la fin de la décennie. Comment s'en sortent les pays émergents dans tout ça ?
C'est vraiment très très disparate et en ça c'est très intéressant. Un pays qui risque de probablement bien s'en sortir relativement, c'est l'Inde. Et pourquoi ? Parce que il serait près d'un accord avec les États-Unis. Typiquement, il y a le grand sujet de ce qui va se passer autour des produits pharmaceutiques. Et imaginons que il y ait une pression sur les produits pharmaceutiques et une pression douanière. L'Inde, qui est particulièrement fort sur les produits génériques, pourrait en bénéficier puisque des produits à bas coût pourraient être privilégiés. Le Brésil devrait aussi, en tout cas, est dans une position plus forte que d'autres pays émergents. Pourquoi ? Parce que le Brésil a une économie assez diversifiée en schématisant des exportations, un tiers Chine, un tiers Europe, un tiers États-Unis. Et donc finalement, cet équilibre-là permet de pas mal les positionner. Après, il y a d'autres pays pour lesquels les choses vont être plus compliquées. Si on parle par exemple en Afrique, il y a clairement des pays qui vont connaître des effets économiques extrêmement sévères. Bon, je veux quand même mentionner le Lesotho, où on anticipe une perte de PIB de plus de 8%. Madagascar, à peu près 3%, puisque peut être très touché par ces droits de douane qui sont extrêmement forts concernant Madagascar. Et typiquement aussi des pays comme le Botswana. Donc ça, c'est quelques pays sur lesquels les choses se dessinent de manière un peu plus compliquée si ces tarifs sont maintenus. Pour d'autres, comme il y a eu des exceptions et des exemptions plus exactement sectorielles qui ont été faites, par exemple sur le pétrole, des minerais ou du caoutchouc, tout ça, ça permet d'atténuer un peu les choses. Et ça, c'est notamment le cas pour le Ghana, la Guinée équatoriale également, l'Angola, la Libye ou le Libéria. Donc, c'est vraiment très, très disparate en l'état. Une fois qu'on a dit ça, certainement, quand même, beaucoup de ces pays risquent aussi de pâtir de cette relation US-Chine à partir du moment où beaucoup exportaient certaines de leurs matières premières vers la Chine. S'il y a un ralentissement de l'économie chinoise, il y aura des effets ricochets.
Merci beaucoup Anne-Laure Kichel, présidente et fondatrice de la société de conseil aux États Global Sovereign Advisory. Merci d'avoir été l'invité de RFI ce matin.
Entretien avec Gaëtan Plenaire, retrouvé sur notre site RFI.fr, tout comme notre éclairage sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est à la une du www.rfi.fr. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, selon l'OMS, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Le docteur Thembo Batili, oncologue, répond à vos questions. Demain, les femmes âgées de plus de 60 ans sont plus touchées par l'arthrose que les hommes. Peut-on prévenir cette maladie articulaire du cartilage ?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Un huis clos familial dans l'Amérique des années 30. Quand il ne travaille pas à l'entrepôt, Tom Wingfield, le fils, se rêve poète et sa sœur, Laura, collectionne les animaux en verre taillé. La ménagerie de verre a révélé l'immense talent de Tennessee Williams. La pièce est mise en scène par Philippe Persson.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.